les Rambeaux, deuxième partie. Après 8 jours, Clérambeau recommença de sortir. La terrible crise qu'il venait de traverser le laissait brisé, mais résolu. L'exaltation du désespoir était tombée. Il lui restait la volonté stoïque de poursuivre, jusqu'en ses dernières retraites, la vérité. Mais le souvenir de l'égarement d'esprit où il s'était complu et du demi-mensonge dont il s'était nourri le rendait humble. Il se méfiait de ses forces et, voulant avancer pas à pas, il était prêt à accueillir les conseils de guides plus expérimentés que lui. Il se souvint de Perrotin, écoutant ses confidences de naguère avec une réserve ironique, qui l'irritait alors, qu'il l'attirait aujourd'hui. Et sa première visite de convalescence fut pour le sage ami. Bien que Perrotin fût meilleur observateur des livres que des visages, assez myope et un peu égoïste, il ne se donnait pas beaucoup de peine pour voir exactement ce dont il n'avait pas besoin. Il ne laissa pas d'être frappé de l'altération des traits de Clérambeau. « Mon bon ami, lui dit-il, vous avez été malade ?»« Bien malade, en effet, répondit Clérambeau. Mais je vais mieux maintenant. Je me suis ressaisi. » Oui, c'est le coup le plus cruel, dit Perrotin. Perdre, à notre âge, un ami comme l'était pour vous, votre pauvre enfant. Le plus cruel n'est pas encore de le perdre, dit Clérambeau. C'est d'avoir contribué à sa perte. Que dites-vous là, mon bon ? Fit Perrotin, surpris. Qu'avez-vous pu trouver pour ajouter à votre peine ? « Je lui ai fermé les yeux, » dit amèrement Clérambeau, « et lui me les a ouverts. » Perrotin laissa tout à fait le travail qu'il continuait de ruminer, selon son habitude, tandis qu'on lui parlait. Et il se mit à observer curieusement Clérambeau. Celui-ci, la tête basse, d'une voix sourde, douloureuse, passionnée, commença son récit. On eût dit un chrétien des premiers temps, faisant sa confession publique. Il s'accusait de mensonges envers sa foi, de mensonges envers son cœur, de mensonges envers sa raison. La lâcheté de l'apôtre avait renié son Dieu, dès qu'il l'avait vu enchaîné. Mais il ne s'était pas dégradé au point d'offrir ses services au bourreau de son Dieu. Lui, Clérambeau, n'avait pas seulement déserté la cause de la fraternité humaine, il l'avait avilie. Il avait continué de parler de fraternité en excitant la haine. Comme ces prêtres menteurs qui font grimacer l'Évangile pour le mettre au service de leur méchanceté, il avait sciemment dénaturé les plus généreuses idées pour couvrir de leur masque les passions du meurtre. Il se disait pacifiste en célébrant la guerre. Il se disait humanitaire en mettant au préalable l'ennemi en dehors de l'humanité. Ah, comme il eût été plus franc d'abdiquer devant la force que de se prêter avec elle à des compromis déshonorants. C'était grâce à des sophismes comme les siens qu'on lançait dans la tuerie l'idéalisme des jeunes gens. Les penseurs, les artistes, les vieux empoisonneurs emmiêlaient de leur rhétorique le breuvage de mort que, sans leur duplicité, toute conscience eût aussitôt éventée et rejetée avec dégoût. « Le sang de mon fils sur moi, » disait douloureusement Clérambeau. « Le sang des jeunes gens d'Europe, dans toutes les nations, rejaillit à la face de la pensée d'Europe. Elle s'est faite partout le valet du bourreau. Mon pauvre ami, dit Perrotin, penché vers Clérambeau et lui prenant la main, Vous exagérez toujours. Certes, vous avez raison de reconnaître les erreurs de jugement auxquelles vous avez entraîné l'opinion publique. Et je puis bien vous avouer aujourd'hui qu'elle m'affligeait en vous. Mais vous avez tort de vous d'attribuer au parleur une telle responsabilité dans les faits d'aujourd'hui. Les uns parlent, les autres agissent, mais ce ne sont pas ceux qui parlent qui font agir les autres. Ils s'en vont tous à la dérive. Cette pauvre pensée européenne est une épave comme les autres. Le courant l'entraîne, elle ne fait pas le courant. Elle engage à y céder, dit Clérambeau. Au lieu de soutenir ceux qui nagent et de leur crier « Luttez contre le flot !» Elle dit « Laissez-vous emporter !» Non, mon ami, ne tentez pas de diminuer sa responsabilité. Elle est plus lourde que tout autre, car notre pensée était mieux placée pour voir. Son office était de veiller. Et si elle n'a point vu, c'est qu'elle n'a point voulu. Elle ne peut accuser ses yeux. Ses yeux sont bons. Vous le savez bien, vous, et je le sais aussi, maintenant que je me suis ressaisie. Cette même intelligence qui me bandait les yeux, c'est elle qui vient de m'arracher le bandeau. Comment peut-elle être à la fois un pouvoir de mensonge et un pouvoir de vérité? Perrotin branla la tête. Oui, l'intelligence est si grande et si haute qu'elle ne peut, sans déchoir, se mettre au service d'autres forces. Il faut tout lui donner. Dès qu'elle n'est plus libre et maîtresse, elle s'avilit. C'est le grec dégradé par le romain, son maître et supérieur à lui, obligé de se faire son pourvoyeur. Gréculus, le sophiste, le léno, le vulgaire entend user de l'intelligence comme d'une domestique à tout faire. Elle s'en acquitte avec l'habileté malhonnête et rouée de cette espèce. Tantôt, elle est au gage de la haine, de l'orgueil ou de l'intérêt. L'intelligence flatte ces petits monstres. Elle les habille en idéalisme, amour, foi, liberté, générosité sociale. Quand un homme n'aime pas les hommes, il dit qu'il aime Dieu, la patrie ou bien l'humanité. Tantôt, le pauvre maître de l'intelligence est lui-même esclave, esclave de l'État. Sous la menace du châtiment, la machine sociale le contraint à des actes qui lui répugnent. La complaisante intelligence lui persuade aussitôt que ses actes sont beaux, glorieux et qu'il les accomplit librement. Dans un cas comme dans l'autre, l'intelligence sait à quoi s'en tenir. Elle est toujours à notre disposition si nous voulons vraiment qu'elle nous dise la vérité. Mais nous nous en gardons bien. Nous évitons de la voir seule à seule. Nous nous arrangeons de façon à ne la rencontrer qu'en public et nous lui posons les questions sur un ton qui commande les réponses. Au bout du compte, la terre n'en tourne pas moins et pour si muove, et les lois du monde s'accomplissent et l'esprit libre les voit. Tout le reste est vanité. Les passions, la foi, ou sincère ou factice, ne sont que l'expression fardée de la nécessité qui entraîne le monde, sans souci de nos idoles. Famille, race, patrie, religion, société, progrès. Le progrès, la grande illusion. L'humanité n'est-elle pas soumise à une loi de niveau qui veut que lorsqu'on le dépasse, une soupape s'ouvre et le récipient se vide? Un rythme catastrophique, des cimes de civilisation et la dégringolade. On monte, on fait le plongeon. Perrotin, tranquillement, dévoilait sa pensée. Elle n'était pas habituée à se montrer nue, mais elle oubliait qu'elle avait un témoin. Et, comme si elle était seule, elle se déshabillait. Elle était d'une hardiesse extrême, ainsi que l'est souvent la pensée d'un grand homme de cabinet, non obligé à l'action et qui n'y tient nullement. Bien au contraire. Clérambeau, effaré, écoutait bouche bée. Certains mots le révoltaient, d'autres lui serraient le cœur. Et il avait le vertige. mais, surmontant sa faiblesse, il ne voulait rien perdre des profondeurs entr'ouvertes. Il pressa de ses questions Perrotin, qui, flatté, souriant, complaisamment déroula ses visions pyrrhoniennes, paisibles et destructrices. Ils étaient enveloppés des vapeurs de l'abîme, et Clérambault admirait l'aisance de ce libre esprit, niché au bord du vide et qui s'y complaisait lorsque la porte s'ouvrit, et le domestique remit à Perrotin une carte de visite. Les fantômes redoutables de l'esprit aussitôt se dissipèrent. Une trappe retomba sur le vide et le tapis officiel du salon en recouvrit la place. Perrotin, réveillé, dit avec empressement « Certainement, faites entrer !» Et, se tournant vers Clérambault, « Vous permettez, mon cher ami, c'est monsieur le sous-secrétaire d'État de l'instruction publique. » Déjà il s'était levé et allait au-devant du visiteur. Un jeune premier, à menton bleu, figure rasée de prêtre, d'acteur ou de yankee, portant la tête haute et le torse bombé dans une jaquette grise que fleurissait la rosette des braves et des valets. Le vieillard, épanoui, faisait les présentations. « Monsieur Agénor Clérambault, monsieur Hyacinthe, mon chéri. » Et demandait à monsieur le sous-secrétaire d'État ce que lui valait l'honneur de sa visite. Monsieur le sous-secrétaire d'État, nullement étonné de l'accueil obséquieux du vieux maître, se carrait dans son fauteuil, en l'attitude de supériorité familière que lui assurait son rang sur les deux illustrations de la pensée française. Il représentait l'État. Il parlait du haut de son nez et bramait comme un dromadaire. Il transmit à Perrotin l'invitation du ministre à présider une séance solennelle d'intellectuels guerriers de dix nations, au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Une séance imprécatoire, comme il disait. Perrotin accepta avec empressement, se confondant de l'honneur. Son ton de domestique, avec le serein breveté par le gouvernement, contrastait étrangement avec la témérité de ses propos, il n'y avait qu'un moment. Et Clérambault, choqué, pensait au Gréculus. Quand ils se retrouvèrent seuls, après que Perrotin eut reconduit jusqu'au seuil son chéri, qui marchait le cou raide et la tête levée, comme l'âne chargé de reliques, Clérambault voulut reprendre l'entretien. Il était un peu refroidi et ne le cachait point. Il invita Perrotin à déclarer en public les sentiments qu'il lui avait professés. Perrotin s'y refusa naturellement, en riant de la naïveté. Et il le mit en garde, affectueusement, contre la tentation de se confesser tout haut. Clérambault se fâcha, discuta, s'entêta. Perrotin, en veine de franchise et afin de l'éclairer, lui dépeignit son entourage, les grands intellectuels de la haute université dont il était le représentant officiel. Historien, philosophe, rhétoriqueur. Il en parlait avec un mépris voilé, poli, profond, auquel se mêlait une pointe d'amertume personnelle. Car, malgré sa prudence, il était trop intelligent pour ne pas être suspect au moins intelligent de ses collègues. Il se définissait un vieux chien d'aveugle au milieu des matins aboyants et obligé, comme eux, d'aboyer aux passants. Clérambault le quitta, sans brouille, mais avec une grande pitié. Quelques jours avant de ressortir. Ce premier contact avec le monde extérieur l'avait déprimé. L'ami en qui il comptait trouver un guide lui manquait piteusement. Il se sentait plein de troubles. Clérambeau était faible. Il n'était pas accoutumé à se diriger seul. Ce poète, si sincère pourtant, ne s'était jamais vu dans l'obligation de penser sans le secours des autres. Il n'avait eu besoin jusqu'alors que de se laisser porter par leurs pensées. Il les poussait. Il en était la voix exaltée et inspirée. Le changement était brusque. Malgré la nuit de crise, il était repris par ses incertitudes. La nature ne peut être, d'un seul coup, transformée, surtout chez qui a passé la cinquantaine, si souple que soient restés les ressorts de son esprit. Et la lumière qu'apporte une révélation ne demeure pas égale, comme la nappe ruisselante du soleil dans un ciel d'été. Elle ressemble plutôt au fanal électrique, qui cligne et qui s'éteint plus d'une fois avant que le courant se régularise. Dans les syncopes de cette pulsation saccadée, l'ombre paraît plus noire et l'esprit plus trébuchant. Clérambeau ne prenait pas son parti de se passer des autres. Il résolut de faire le tour de ses amis. Il en avait beaucoup, dans le monde des lettres, de l'université, de la bourgeoisie intelligente. Il ne se pouvait pas que, dans le nombre, il ne trouvât des esprits qui, comme lui, mieux que lui, eussent l'intuition des problèmes qui l'obsédaient et l'aidassent à les éclaircir. Sans se livrer encore, timidement, il essaya de lire en eux, d'écouter, d'observer. Mais il ne s'apercevait pas que ses yeux étaient changés, et la vision qu'il eut d'un monde, cependant bien connu, lui apparut nouvelle et le glaça. Tout le peuple des lettres était mobilisé. On ne distinguait plus les personnalités. Les universités formaient un ministère de l'intelligence domestiquée. Il avait pour office de rédiger les actes du maître et patron, l'État. Les différents services se reconnaissaient alors des formations professionnelles. Les professeurs de lettres étaient surtout experts au développement moral, en trois points au syllogisme oratoire. Ils avaient la manie de simplification excessive dans leur raisonnement, se payaient de grands mots pour raison et abusaient des idées claires, peu nombreuses, toujours les mêmes, sans ombre, sans nuance et sans vie. Ils les décrochaient à l'arsenal d'une soi-disant antiquité classique, dont la clé était jalousement gardée au cours des âges par des générations de mamelouks académiques. Ces idées éloquentes et vieillies, qu'on nommait par abus humanité, encore que sur beaucoup de points elles blessassent le bon sens et le cœur de l'humanité d'aujourd'hui, avaient reçu l'estampille de l'État romain, prototype de tous les États européens. Leurs interprètes attitrés étaient des rhéteurs au service de l'État. Les philosophes régnaient dans la construction abstraite. Ils avaient l'art d'expliquer le concret par l'abstrait, le réel par son ombre, de systématiser quelques observations hâtives partiellement choisies et, dans leurs alambics, d'en extraire des lois pour régir l'univers. Ils s'appliquaient à asservir la vie multiple et changeante à l'unité de l'esprit, c'est-à-dire de leur esprit. Cet impérialisme de la raison était favorisé par les roueries complaisantes d'un métier sophistique, rompu au maniement des idées. Ils savaient les tirer et tirer, tordre et nouer ensemble comme des pattes de guimauve. Ce n'est pas à eux qu'il eût été difficile de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Ils pouvaient aussi bien prouver le blanc que le noir, et trouvait à volonté dans Emmanuel Kant la liberté du monde ou le militarisme prussien. Les historiens étaient les scribes nés, les notaires et avoués de l'État, préposés à la garde de ces chartes, de ces titres et procès, et armés jusqu'aux dents pour les chicanes futures. L'histoire, qu'est-ce que l'histoire? L'histoire du succès, la démonstration du fait accompli, qu'il soit injuste ou juste. Les vaincus n'ont pas d'histoire. Silence à vous, Perses de Salamine, esclaves de Spartacus, Gaulois, Arabes de Poitiers, Albigeois, Irlandais, Indiens des deux Amériques et races coloniales. Quand un homme de bien, en butte aux injustices de son temps, met pour se consoler son espoir dans la postérité, il se ferme les yeux sur le peu de moyens qu'a cette postérité d'être instruite des événements passés. Elle n'en connaît que ce que les procureurs de l'histoire officielle jugent avantageux à la cause de leurs clients, l'État. À moins que n'intervienne l'avocat de la partie adverse, soit d'une autre nation, soit d'un groupe social ou religieux opprimé. Mais il y a peu de chance, le poteau rose est bien gardé. Rhéteurs, sophistes et procéduriers, les trois corporations aux facultés des lettres de l'État, visées et patentées. Les scientifiques seraient, par leurs études, un peu mieux à l'abri des suggestions et des contagions du dehors, s'ils restaient dans leur métier. Mais on les en a fait sortir. Les applications des sciences ont pris une telle place dans la réalité pratique que les savants se sont vus jetés au premier rang de l'action. Il leur a bien fallu subir les contacts infectieux de l'esprit public. Leur amour-propre s'est trouvé directement intéressé à la victoire de la communauté. Et celle-ci englobe aussi bien l'héroïsme des soldats que les folies de l'opinion et les mensonges des publicistes. Bien peu ont eu la force de s'en dégager. La plupart y ont apporté la rigueur, la raideur de l'esprit géométrique, avec les rivalités professionnelles qui sont toujours aiguës entre les corps savants des différents pays. Quant aux purs écrivains, poètes, romanciers, sans attaches officielles, ils devaient avoir le bénéfice de leur indépendance. Fort peu, malheureusement, sont en état de juger par eux-mêmes d'événements qui dépassent les limites de leurs préoccupations habituelles, esthétiques ou commerciales. La plupart, et non des moins illustres, sont ignorants comme des carpes. Le mieux serait qu'ils restassent cantonnés dans leurs rayons de boutique, et leur instinct naturel les y maintiendrait. Mais leur vanité a été sottement taquinée, sollicitée de se mêler aux affaires publiques et de dire leurs mots sur l'univers. Ils ne peuvent rien en dire qu'à tort et à travers. À défaut de jugement personnel, ils s'inspirent de grands courants. Leurs réactions sous le choc sont extrêmement vives, car ils sont ultra-sensibles et d'une vanité maladive, qui, lorsqu'elle ne peut exprimer de pensée propre, exagère les pensées des autres. C'est la seule originalité dont ils disposent, et Dieu sait qu'ils en usent. Que reste-t-il? Les gens d'Église, ce sont eux qui manient les plus gros explosifs, les idées de justice, de vérité, de bien, de Dieu. Et ils mettent cette artillerie au service de leur passion. Leur orgueil insensé, dont ils n'ont même pas conscience, s'arroge la propriété de Dieu et le droit exclusif de le débiter en gros et en détail. Ils ne manquent pas tant de sincérité, de vertu ou même de bonté qu'ils ne manquent d'humilité. Ils n'en ont aucune, bien qu'ils la professent. Celle qu'ils pratiquent consiste à adorer leur nombril reflété dans le Talmud, la Bible ou l'Évangile. Ce sont des monstres d'orgueil. Ils ne sont pas si loin du fou légendaire qui se croyait Dieu le Père. Est-il beaucoup moins dangereux de se croire son intendant ou bien son secrétaire ? Clérambeau était saisi du caractère morbide de la gent intellectuelle. La prépondérance comprise chez une caste bourgeoise, les facultés d'organisation et d'expression de la pensée, a quelque chose de tératologique. L'équilibre vital est détruit. C'est une bureaucratie de l'esprit qui se croit très supérieure aux simples travailleurs. Certes, elle est utile. Qui songe à le nier ? Elle amasse, elle classe la pensée dans ses casiers. Elle en fait des constructions variées. Mais qu'il lui vient rarement à l'idée de vérifier les matériaux qu'elle met en œuvre et de renouveler le contenu de la pensée. Elle reste la gardienne vaniteuse d'un trésor démonétisé. Si, du moins, cette erreur était inoffensive. Mais les idées qu'on ne confronte point constamment avec la réalité, celles qui ne baignent pas à toute heure dans le flot de l'expérience, prennent, en se desséchant, des caractères toxiques. Elles étendent sur la vie nouvelle leur ombre lourde, qui fait la nuit, qui donne la fièvre. Stupide envoûtement des mots abstraits, à quoi sert-il de détrôner les rois? Et quel droit de railler ceux qui mesurent pour leur maître, si c'est pour leur substituer des entités tyranniques qu'on refait de leurs oripeaux? Mieux vaut encore un monarque en chair et en os, qu'on voit, qu'on tient et qu'on peut supprimer. Mais ces abstractions, ces despotes invisibles que nul ne connaîtra ni n'a connus jamais. Car nous n'avons affaire qu'aux grands eunuques, aux prêtres du crocodile caché, ainsi que le nommé Taine, aux ministres intrigants qui font parler l'idole. Ah, que le voile se déchire et que nous connaissions la bête qui se dissimule en nous. Il y aurait moins de danger pour l'homme à être une franche brute qu'à habiller sa brutalité d'un idéalisme menteur et maladif. Il n'élimine pas ses instincts animaux, mais il les défie. Il les idéalise et tâche de les expliquer. Comme il ne le peut sans les soumettre à une simplification excessive, c'est une loi de son esprit qui, pour comprendre, détruit autant qu'il prend, il les dénature en les intensifiant dans une direction unique. Tout ce qui s'écarte de la ligne imposée, tout ce qui gêne la logique étroite de sa construction mentale, il fait plus que le nier, il le saccage, il en décrète la destruction au nom de sacrés principes. De là que, dans l'infinité vivante de la nature, il opère des abatis immenses pour laisser subsister les seuls arbres de pensée qu'il a élus. Il se développe dans le désert et les ruines, monstrueusement. Tel l'empire accablant d'une forme despotique de la famille, de la patrie et de la morale bornée qu'on met à leur service. Le malheureux en est fier et il en est victime. L'humanité qui se massacre n'oserait plus le faire pour ses seuls intérêts. Des intérêts, elle ne se vante point, mais elle se vante de ses idées, qui sont mille fois plus meurtrières. L'homme voit dans les idées pour lesquelles il combat sa supériorité d'homme. Et j'y vois sa folie. L'idéalisme guerrier est une maladie qui lui est propre. Ses effets sont pareils à l'alcoolisme. Il centuple la méchanceté et la criminalité. Son intoxication détériore le cerveau. Il le peuple d'hallucinations et il y sacrifie les vivants. L'extraordinaire spectacle, vu de l'intérieur des crânes. Une ruée de fantômes qui fument des cerveaux fiévreux. Justice, liberté, droit, patrie. tous ces pauvres cerveaux également sincères, tous accusant les autres de ne l'être point. De cette lutte fantastique entre des ombres légendaires, on ne voit rien au dehors que les convulsions et les cris de l'animal humain possédé par les troupeaux de démons. Au-dessus des nuées chargées d'éclairs, où combattent de grands oiseaux furieux, les réalistes, les gens d'affaires, comme des poux dans une toison, grouillent et rongent. Gueules avides, mains rapaces, excitant sournoisement les folies qu'ils exploitent sans les partager. Ô pensées, fleurs monstrueuses et splendides, qui poussent sur l'humus des instincts séculaires, tu es un élément. Tu pénètres l'homme, tu l'imprègnes, mais tu ne viens pas de lui. Ta source lui échappe et ta force le dépasse. Les sens de l'homme sont à peu près adaptés à son usage pratique. Sa pensée ne l'est point. Elle le déborde et elle l'affole. Quelques êtres, en nombre infiniment restreint, réussissent à se diriger sur ce torrent. Mais il entraîne l'énorme masse, au hasard, à toute volée. Sa puissance formidable n'est pas au service de l'homme. L'homme tâche de s'en servir, et le plus grand danger est qu'il croit qu'il s'en sert. Il est comme un enfant qui manie des explosifs. Il n'y a pas de proportion entre ses engins colossaux et l'objet pour lequel ses mains débiles les emploient. Parfois, ils font tout sauter. Comment parer au danger? Étouffer la pensée? Arracher les idées ivres? Ce serait châtrer l'homme de son cerveau, le priver de son principal stimulant à la vie? Et pourtant, l'eau-de-vie de la pensée contient un poison d'autant plus redoutable qu'elle est répandue dans les masses, en drogue frelatée. Homme, dessoule-toi, regarde, sors des idées, fais-toi libre de ta propre pensée. Apprends à dominer ta gigantomachie, ces fantômes enragés qui s'entre-déchirent. Patrie, droit, liberté, grande déesse, nous vous découronnerons d'abord de vos majuscules. Descendez de l'Olympe dans la crèche et venez sans ornement, sans armes, riches de votre seule beauté et de notre seul amour. Je ne connais point des dieux, justice, liberté. Je connais mes frères hommes et je connais leurs actes, tantôt justes, tantôt injustes. Et je connais les peuples qui sont tous dénués de vraie liberté, mais qui tous y aspirent et qui tous, plus ou moins, se laissent opprimer. La vue de ce monde en proie à la fièvre chaude eût inspiré à un sage le désir de se retirer à l'écart et de laisser passer l'accès. Mais Clérambeau n'était pas un sage. Il savait seulement qu'il ne l'était pas. Il savait que parler était vain, et pourtant il savait qu'il lui faudrait parler. Il savait qu'il le ferait. Il chercha à retarder le dangereux moment. Et sa timidité, qu'il ne pouvait se faire à l'idée de rester seul, aux prises avec tous, mendia autour de lui un compagnon de pensée. Ne fût-on que deux ou trois ensemble, il serait moins dur d'engager le combat. Les premiers dont il alla discrètement tâter la sympathie étaient de pauvres gens qui, comme lui, avaient perdu un fils. Le père, peintre connu, avait un atelier rue Notre-Dame-des-Champs. Les Clérambeau voisinaient avec les Omer Calville. C'était un bon vieux couple, très bourgeois, très uni. Ils avaient cette douceur de pensée, commune à nombre d'artistes de ce temps qui avait connu carrière et reçu les reflets lointains du tolstoïsme. Comme leur simplicité, elles semblent un peu factices, quoiqu'elles répondent à une bonhomie de nature. Mais la mode du jour y a mis une ou deux touches de trop. Nul n'est moins capable de comprendre les passions de la guerre que ces artistes qui professent avec une emphase sincère le respect religieux de tout ce qui vit. Les Calvilles s'étaient tenus en dehors du courant. Ils ne protestaient point. Ils acceptaient, mais comme on accepte la maladie, la mort, la méchanceté des hommes, tristement, dignement, sans acquiescer. Les poèmes enflammés de Clérambeau, qu'il était venu leur lire, écoutés poliment, rencontraient peu d'écho. Mais voici qu'à l'heure même où Clérambeau, désabusé de l'illusion guerrière, pensait les rejoindre, eux s'éloignaient de lui, car ils retournaient à la place qu'ils venaient de quitter. La mort du fils avait eu sur eux un effet opposé à celui qui transformait Clérambeau. Maintenant, ils entraient gauchement dans la bataille, comme pour remplacer le disparu. Ils respiraient avidement la puanteur des journaux. Clérambeau les trouva réjouis, dans leur misère, de l'assertion que l'Amérique était prête à faire une guerre de 20 ans. Il essaya de dire « Que restera-t-il de la France, de l'Europe, dans 20 ans ?» Mais ils écartèrent cette pensée avec une hâte irritée. Il semblait qu'il fût inconvenant d'y songer et surtout d'en parler. Il s'agissait de vaincre. À quel prix? On compterait après. Vaincre, et s'il ne restait plus en France de vainqueur? N'importe, pourvu que les autres, là-bas, fussent vaincus. Non, il ne fallait pas que le sang du fils mort eût été versé en vain. Et Clérambeau pensait, faut-il que, pour le venger, d'autres vies innocentes soient aussi sacrifiées? Et au fond de ces braves gens, il lisait, pourquoi pas? Il le lut chez presque tous ceux à qui, comme au Calville, la guerre avait pris le plus cher, un fils, un mari, un frère. Que les autres souffrent aussi, nous avons bien souffert. Il ne nous reste plus rien à perdre. Plus rien? Si fait, une seule chose, que le farouche égoïsme de ces deux y gardait jalousement, leur foi en l'utilité du sacrifice, que rien ne vienne l'ébranler. Défense de douter que la cause ne soit sainte, pour qui leurs morts étaient tombés. Ah, qu'ils le savaient bien, les maîtres de la guerre, et comme ils s'entendaient à exploiter ce leur. Non, il n'y avait aucune place à ces foyers en deuil pour les doutes de Clérambeau et son esprit de pitié. « Qui a eu pitié de nous ?» pensaient ces malheureux. « Pourquoi en aurions-nous ?» Il en était de moins éprouvé. Mais ce qui caractérisait presque tous ces bourgeois, c'était l'emprise sous laquelle ils vivaient des grands maux du passé. Comité de salut public, la patrie en danger, Plutarque, des Viris, le vieil Horace. Impossible qu'ils regardent le présent avec des yeux d'aujourd'hui. Mais avaient-ils seulement des yeux pour regarder? En dehors du cercle étroit de leurs affaires, combien, passés 30 ans, ont, dans la bourgeoisie anémiée de nos jours, le pouvoir de penser par eux-mêmes? Ils n'y songent même pas. On leur fournit leurs pensées toutes faites, ainsi que leur manger et à meilleur marché. Pour un ou deux sous par jour, ils la trouvent dans leur presse. Ceux plus intelligents qui la cherchent dans les livres ne se donnent pas la peine de la chercher dans la vie et prétendent que celle-ci soit le reflet de ceux-là. Comme des vieillards précoces, leurs membres s'ankylosent, l'esprit se pétrifie. dans le vaste troupeau de ces âmes ruminantes qui pâturent le passé, se distinguait alors le groupe des cagots de la Révolution française. Ils avaient paru incendiaires en des temps très anciens, à l'époque du 16 mai et quelque temps après, dans la bourgeoisie attardée. Tels des quinquagénaires rangés et épaissis, qui se rappellent avec orgueil qu'ils furent des mauvais sujets, ils vivaient sur le souvenir des émois que soulevait leur hardiesse d'antan. S'ils n'avaient pas changé pour leur miroir, le monde avait changé autour d'eux. Mais ils ne s'en doutaient pas, ils continuaient de copier leur modèle décrépit. Curieux instinct d'imitation, servitude du cerveau, qui reste hypnotisé sur un point du passé. Au lieu de chercher à suivre en sa course protée la vie changeante, il ramasse la vieille peau d'où s'est depuis longtemps échappé le jeune serpent. Et il voudrait l'y recoudre. Les dévots pédantesques des révolutions mortes prétendent que celles de l'avenir prennent mesure sur ces tombeaux. Ils n'admettent point qu'une liberté nouvelle marche d'un autre pas et franchisse les barrières où fit halte et soufflait sa grand-mère de 93. Ils en veulent davantage encore à l'irrespect des jeunes qui les dépassent qu'au glapissement haineux des vieux qu'ils ont dépassés. Ce n'est pas sans raison, car ces jeunes leur révèlent qu'ils sont devenus des vieux, et ils glapissent contre eux. Il en sera toujours ainsi. À peine quelques esprits vieillissants permettent à la vie de poursuivre son cours. Et généreusement, quand s'éteignent leurs yeux, jouissent de l'avenir par les yeux de leurs cadets. Mais la plupart de ceux qui, jeunes, aimèrent la liberté, en veulent faire une cage pour les nouvelles couvées, quand eux ne peuvent plus voler. L'internationalisme d'aujourd'hui ne trouvait pas de plus haineux adversaire que certains servants du culte nationalisme révolutionnaire, à la mode de Danton ou bien de Robespierre. Eux-mêmes ne s'entendaient pas toujours entre eux. Et les gens de Danton et ceux de Robespierre, que séparait encore l'ombre de la guillotine, avec d'aigres menaces, se traitaient d'hérétiques. Mais s'ils étaient d'accord pour vouer au dernier supplice ceux qui ne croyaient point qu'on porte la liberté à la gueule des canons, ceux qui osent confondre dans la même aversion la violence, qu'elle soit exercée par César, par Démos ou par ses corroyeurs. Et fût-ce même au nom du droit ou de la liberté. Le masque peut changer. Dessous, la gueule est la même. Clérambault connaissait plusieurs de ces fanatiques. Il n'était pas question de discuter avec eux si le droit ou le tortu ne se trouvaient pas, en guerre, de plus d'un seul côté. Autant eût valu, pour un manichéen, discuter avec la Sainte Inquisition. Les religions laïques ont leurs grands séminaires et leurs sociétés secrètes où se conserve orgueilleusement le dépôt de la doctrine. Qui s'en écarte est excommunié en attendant qu'il soit du passé à son tour. Alors il aura chance de devenir aussi un dieu et en son nom on excommuniera l'avenir. Mais si Clérambault n'était pas tenté de convertir ces durs intellectuels casqués de leur étroite vérité, il en connaissait d'autres qui n'avaient point cet orgueil de certitude, tant s'en fallait. Il péchait plutôt par souplesse un peu molle et par dilettantisme. Arsène Asselin était un aimable parisien. Célibataire, homme du monde, intelligent et sceptique, qu'une faute de goût choquait dans le sentiment comme dans l'expression. Comment eût-il pu se plaire aux outrances de pensée qui sont le bouillon de culture où se développe la guerre? Son esprit critique et son ironie devaient l'incliner au doute. Il n'y avait pas de raison pour qu'il ne comprît point les raisons de Clérambeau. Aussi bien s'en était-il fallu d'un cheveu qu'il pensa comme lui. Son choix avait dépendu de circonstances fortuites. Mais à partir du moment où il avait mis le pied dans l'autre direction, impossible de revenir en arrière. Et plus il s'embourbait, plus il s'obstinait. L'amour-propre français ne reconnaît jamais son erreur. Il se ferait tuer pour elle. Français ou non, combien sont-ils dans ce monde qui auraient l'énergie de dire « Je me suis trompé. Allons, tout est à refaire. » Mieux vaut nier l'évidence jusqu'au bout et crever. Bien curieux était un pacifiste d'avant-guerre, Alexandre Mignon. Vieil ami de Clérambeau, à peu près de son âge, bourgeois, intellectuel, universitaire, la dignité de sa vie le faisait justement respecter. Il ne fallait pas le confondre avec les pacifistes de banquet, fleuris d'ordres officiels et lacés de grands cordons internationaux, pour qui la paix en palabres est, dans les années calmes, un placement de tout repos. Il avait, pendant 30 ans, sincèrement dénoncé les menées dangereuses des politiciens et des spéculateurs véreux de son pays. Il était de la Ligue des droits de l'homme et avait la démangeaison de parler, pour l'un, pour l'autre, au petit malheur. Il lui suffisait que son client se nommât opprimé. Il ne se demandait pas si le dit opprimé n'était pas, d'aventure, un oppresseur manqué. Sa générosité brouillonne lui avait valu quelques ridicules qui se conciliaient avec l'estime. Il n'en était point fâché. Un peu d'impopularité même ne lui eût pas fait peur, pourvu qu'il se sentît encadré par son groupe dont l'approbation lui était nécessaire. Il se croyait un indépendant. Il ne l'était pas. Il était l'un des membres d'un groupe qui était indépendant quand tous se tenaient ensemble. L'union fait la force, dit-on. Oui, mais elle habitue à ne plus pouvoir se passer d'union. Alexandre Mignon en fit l'expérience. La disparition de Jaurès avait désorienté le groupe. Que manquât une seule voix qui parlait la première, toutes les autres manquaient. Elles attendaient le mot d'ordre et nul n'osait le donner. Incertain, au moment où croulait le torrent, ces hommes généreux et faibles furent entraînés par la poussée des premiers jours. Ils ne la comprenaient pas, ils ne l'approuvaient pas, mais ils n'avaient rien à y opposer. Dès la première heure, des désertions se produisirent dans leurs rangs. Elles étaient provoquées par ces affreux rhéteurs qui gouvernaient l'État, les avocats démagogues rompus à tous les sophismes de l'idéologie républicaine. La guerre pour la paix éternelle au bout. Requiescat. Les pauvres pacifistes virent dans ces artifices une occasion unique, sinon très reluisante, ils n'en étaient pas fiers, de se tirer de l'impasse. Ils se flattèrent de mettre d'accord, par une hâblerie dont ils n'aperçurent point l'énormité, leurs principes de paix et le fait de violence. S'y refuser, c'eût été se livrer à la meute de la guerre. Elle les eût dévorés. Alexandre Mignon aurait eu le courage de faire face aux gueules sanglantes s'il avait senti près de lui sa petite communauté. Mais seul, c'était au-dessus de ses forces. Sans se prononcer, d'abord, il laissa faire. Il souffrait. Il passa par des angoisses assez proches de celles de Clérambeau. Mais il n'en sortit pas de même. Il était moins impulsif et plus intellectuel. Pour effacer ses derniers scrupules, il le recouvrit de raisonnements serrés. Avec l'aide de ses collègues, il prouva laborieusement par A plus B que la guerre était le devoir du pacifisme conséquent. Sa ligue avait beau jeu à relever les actes criminels de l'ennemi, mais elle ne s'attardait pas sur ceux de son propre camp. Alexandre Mignon entrevoyait, par instant, l'injustice universelle. Vision intolérable, il ferma ses volets. À mesure qu'il s'emmaillotait dans sa logique de guerre, il lui devenait plus difficile de s'en dépêtrer. Alors il s'acharna comme un enfant qui, par un acte irréfléchi de nervosité maladroite, vient d'arracher l'aile d'un insecte. L'insecte est perdu maintenant. L'enfant honteux, qui souffre et qui s'irrite, se venge sur la bête et la met en pièces. On peut juger du plaisir qu'il eut à entendre Clérambeau lui faire son mea culpa. L'effet fut surprenant. Mignon, déjà troublé, s'indigna contre Clérambeau. En s'accusant, Clérambeau paraissait l'accuser. Il devint l'ennemi. Nul ne fut, par la suite, plus enragé que Mignon contre ce remords vivant. Clérambeau eut rencontré plus de compréhension chez quelques politiciens. Ceux-là en savaient autant que lui, et même bien davantage. Mais il n'en dormait pas plus mal. Depuis leurs premières dents gâtées, ils avaient l'habitude des combinazioni, des tripotages de pensées. Ils se donnaient à bon compte l'illusion de servir leur parti, au prix de quelques compromis. Un de plus, un de moins. Aller droit, penser droit, était la seule chose impossible à ces êtres flasques, toujours biaisants, qui avançaient en serpentant, qui avançaient en reculant, qui, pour mieux assurer le succès à leur bannière, la traînaient dans la crotte, et qui fussent montés à plat ventre au Capitole. Enfin, se dissimulaient ça et là quelques esprits clairvoyants. On devait les deviner, plus qu'on ne les voyait, car ces mélancoliques vers luisants avaient eu soin d'éteindre leurs lanternes. Il semblait dans les transes qu'il n'en filtrât une lueur. Certes, ils étaient dénués de foi dans la guerre, mais sans foi contre la guerre. Fataliste, pessimiste. Clérambeau constatait que, lorsque fait défaut l'énergie personnelle, les plus hautes qualités du cœur et de l'esprit contribuent à accroître encore la servitude publique. Le stoïcisme qui se soumet aux lois de l'univers empêche de lutter contre celles qui sont cruelles. Au lieu de dire au destin « Non, tu ne passeras pas. » S'il passe, on verra bien. Le stoïque s'efface poliment et dit « Mais entrez donc. » L'héroïsme cultivé, le goût du surhumain, de l'inhumain, se gargarise l'âme avec les sacrifices. Et plus ils sont absurdes, plus ils sont sublimes. Les chrétiens d'aujourd'hui, plus généreux que leur maître, rendent tout à César. C'est assez qu'une cause leur demande de s'immoler pour qu'elle leur paraisse sainte. Ils offrent pieusement à l'ignominie de la guerre la flamme de leur foi et leur corps sur le bûcher. La résignation ironique et passive des peuples fait le gros dos, accepte. Faut pas s'en faire. Et sans doute, les siècles de misère ont roulé sur cette pierre. Mais la pierre s'use à la longue et devient boue.